France Inter.
Bonsoir Kevin Dufraîche.
Bonsoir.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, un chiffre hallucinant.
1 milliard de repas gaspillés chaque jour dans le monde, estimation dévoilée par les Nations Unies ce soir. Alors que 800 millions de personnes souffrent de la faim sur la planète, les détails dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin?
À quand du cannabis thérapeutique dans les pharmacies? L'expérimentation de 3 ans vient de se finir. Moins de passoires thermiques sur le marché, plus de travaux de rénovation réalisés. La loi climat commence à fonctionner d'après une enquête du site Se Loger.
Et son directeur scientifique Thomas Lefebvre sera l'invité de ce journal.
Et puis le musée d'Orsay ressuscite la première expo impressionniste pour les 150 ans du mouvement.
Au sommaire du 18-20 ce soir, nous allons regarder le déficit français à hauteur d'Europe. Nous sommes certainement mal placés, mais comment ceux qui ont été montrés du doigt il y a quelques années, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Grèce, ont-ils redressé leurs finances et comment ça compte? Le reportage est à Erevan et ses villes voisines où ont trouvé refuge les déplacés du Haut-Karabakh. Manque de logement, manque de travail, l'adaptation est difficile. Kevin, vous nous raconterez notamment ces feux de forêt très inquiétants au Mexique. Franck Madvon, dans Le Monde à 18h50, regarde le Venezuela. Une coalition d'opposition a pu s'enregistrer à la présidentielle, mais une coalition par défaut. Alexis Demeyer, dans le cinéma en VO, a vu Au Corno, c'est une histoire de sororité dans l'Espagne franquiste du début des années 70. En deuxième heure, c'est le téléphone sonne, le statut de la Corse ce soir qui s'achemine vers l'autonomie. Qu'est-ce que vous en dites? On attend d'ores et déjà vos questions.
France Inter.
On réfléchira à deux fois avant de jeter les restes de nos dîners ce soir.
1 milliard, vous avez bien entendu, 1 milliard de repas sont jetés inutilement chaque jour dans le monde. C'est une estimation faite par le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, issue d'une étude de 200 pages qui se base sur des chiffres 2022 dévoilés ce soir et que vous avez regardé de plus près pour nous. Sébastien Sabiron, bonsoir.
Bonsoir.
L'ONU parle d'une véritable tragédie.
Car si ce milliard de repas n'était pas gaspillé quotidiennement, eh bien cela permettrait tout simplement de régler le problème de la faim dans le monde en nourrissant les 800 millions de personnes qui en souffrent. Dans ce rapport, le programme des Nations Unies pour l'environnement bouscule quelques idées reçues. D'abord, ce n'est pas la grande distribution qui gaspille le plus, mais bien les consommateurs, les ménages. Ils ont jeté 621 millions de tonnes de nourriture en 2022, dont une bonne partie de produits encore comestibles, mais dont la date limite de consommation est dépassée. Ensuite, un tiers de la nourriture jetée provient de la restauration, qu'elle soit individuelle ou collective. Le reste, enfin, du commerce de détail ou de la grande distribution. Autre idée reçue, le gaspillage ne concerne pas uniquement les pays riches. Les pays en voie de développement jettent en moyenne 86 kilos de nourriture par personne et par an, 5 de plus seulement que dans les pays développés, mais pas forcément pour les mêmes raisons. En Afrique subsaharienne, par exemple, les problèmes de réfrigération récurrents peuvent conduire à gaspiller de la nourriture. En Europe, dans le détail, le Portugal et la Suisse sont les pires élèves en matière de gaspillage. Les Bulgares sont les plus vertueux. Mais le problème est global, selon l'ONU, qui plaide pour des partenariats publics-privés qui inciteraient, par exemple, les industriels à mieux adapter les proportions produites aux besoins réels des populations.
Sébastien Sabiron, et tout ça est mauvais pour l'environnement. Un dernier chiffre, le rapport estime que ce gaspillage représente jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète.
Une mission parlementaire sur le déficit public.
Voilà ce que va lancer la commission des finances du Sénat après l'annonce d'un déficit plus important que prévu en 2023. Les sénateurs vont demander des explications au gouvernement. Des explications, Gabriel Attal devrait en donner quelques-unes ce soir sur TF1 Interview où le Premier ministre devrait aussi évoquer une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Gabriel Attal qui recevait cet après-midi le proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris qui a démissionné après avoir été victime de menaces de mort suite à une altercation avec une élève de BTS à qui il a demandé de retirer son voile dans l'établissement. Un rendez-vous à la demande du Premier ministre pour apporter son soutien à ce proviseur mais aussi à l'ensemble de la communauté éducative, précise Matignon ce soir. L'actualité à l'étranger et au Proche-Orient, l'armée israélienne ne donne pas de répit aux habitants de Gaza. Nouvelle journée de bombardements intenses sur l'enclave palestinienne et des combats avec le Hamas autour de plusieurs grands hôpitaux, Israël visé par de nouvelles accusations de génocide à Gaza. Après la plainte déposée par l'Afrique du Sud à ce sujet devant la justice internationale, c'est la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés qui ce soir emploie clairement le terme Jérémy Lanche.
Anatomie d'un génocide, le nom du rapport de Francesca Albanese est sans équivoque. D'après elle, il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide depuis le 7 octobre, et elle en fait la liste.
Le massacre flagrant et systématique de civils palestiniens, l'utilisation d'armes prohibées, l'anéantissement des infrastructures civiles, y compris les attaques délibérées contre tous les hôpitaux, la famine provoquée, tout cela va plus loin que les seuls crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'on a déjà pu constater dans les territoires occupés.
Ce que dit aussi le rapport, c'est qu'en appelant publiquement à remplacer les Palestiniens de Gaza par des colons, plusieurs responsables israéliens ont ainsi donné une sorte de carte blanche aux militaires pour leurs opérations, reléguant l'ensemble des victimes civiles au rang de dommages collatéraux. Cela fait longtemps que les Palestiniens sont victimes d'une campagne d'effacement, dit la rapporteure spéciale, mais pas dans ses proportions. Des conclusions rejeté en bloc par Israël. Tel Aviv accuse Francesca Albanese de propos antisémites après le 7 octobre et de vouloir saper l'existence même de l'État d'Israël. À Genève, Jérémy Lanche, RFI pour France Inter.
L'expérimentation du cannabis thérapeutique en France est officiellement terminée.
Et depuis hier, elle a duré 3 ans. 3200 personnes souffrant de certaines pathologies y ont participé. Alors certains d'entre eux peuvent continuer à prendre ces traitements. C'est une phase transitoire. Et maintenant, bonsoir Victor Delande.
Bonsoir Kevin.
Double question, Victor, quels enseignements peut-on tirer de cette expérimentation? Et puis quand y aura-t-il des médicaments contenant du cannabis dans nos pharmacies?
Alors d'abord, cette expérimentation a été évaluée à deux reprises. Il a été observé une amélioration significative des symptômes. Il n'y a pas eu d'effet secondaire inattendu. 3200 patients en impasse thérapeutique ont été inclus, vous l'avez dit. Trop peu, selon certaines associations, au vu du nombre de patients qui ont des douleurs qu'ils ne peuvent soulager. C'est le cas de Béatrice, 62 ans, atteinte d'une neuropathie de depuis 25 ans, elle rentrait dans les critères de l'expérimentation, mais a dû reculer face à la lourdeur administrative du cadre. Et pourtant, elle consomme du cannabis et en voit les vertus sur ses douleurs.
Un effet mieux relaxant qui est idéal. Un effet antidépressif aussi qui est pour moi probant. La qualité du sommeil, tout va avec. Donc quand vous avez un meilleur sommeil, quand vous avez vos muscles qui sont mieux relaxés au niveau des jambes, que vous avez moins de courbatures, de crampes nocturnes, vous dormez mieux, vous êtes plus en forme.
L'expérimentation se prolongera pour un peu moins de 2000 patients jusqu'au 31 décembre. Après, il faudra attendre un décret en Conseil d'État pour définir les contours du cannabis médical, plus un arrêté ministériel pour savoir par exemple quel produit sera utilisé. En attendant, France Deschamps s'impatiente, il est le président de Santé Cannabis France, l'organisation professionnelle de la filière.
On sort d'un circuit habituel et malgré ses preuves d'efficacité, il est vrai qu'il faut être inventif et il est peut-être compliqué, sans volonté politique forte, de faire que ces médicaments soient dans le droit commun. Ils le seront, normalement, en 2025. Mais soit véritablement accessible.
Selon les estimations, 150 000 patients pourraient être concernés par les indications thérapeutiques pour prendre du cannabis médical à partir donc de l'année prochaine.
Explication signée Victor Delande, spécialiste santé de France Inter. Le ministère en charge de l'enfance et des familles annonce ce soir la création d'un label Parents Parlons Numérique, destiné à certifier des ateliers qui sensibilisent à la place des écrans dans la famille et lutter contre la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Smartphone, tous accros, c'est d'ailleurs le thème de notre journée spéciale demain sur Inter, de la matinale jusqu'au 18-20.
Absolument, de nouvelles opérations Place Net aujourd'hui.
Contre le trafic de drogue en région parisienne, à Lyon, à Lille ou encore à Marseille, où elles ont été lancées par Emmanuel Macron lui-même la semaine dernière, un déplacement au cours duquel le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a passé une soufflante à certains magistrats, notamment la juge Isabelle Coudert, qui avait dit craindre, je cite, que nous ne soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Propos tenus devant la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic en France. C'est devant cette même commission aujourd'hui que l'ancien procureur François Molins a défendu ses collègues.
Je pense que ce sont ici et ailleurs des magistrats engagés au quotidien et qui vous ont dit la vérité avec une grande lucidité, ils me paraissent parfaitement irréprochables, ce qui m'amène à une incompréhension majeure face au comportement du garde des Sceaux à Marseille, face à cette remontée de bretelles, comme certains l'ont nommé. Je pense qu'il n'est pas convenable d'avoir ce type de comportement qui consiste à reprocher à des magistrats d'avoir dit la vérité devant des émanations de la nation. Et je voudrais rappeler que les magistrats ne sont pas là pour venir au soutien des discours politiques des uns ou des autres, qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition. Ça n'est pas leur office.
François Molins devant les sénateurs aujourd'hui, écouté par Sarah Guibaudot. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour cyberharcèlement suite à la plainte déposée par la présidente des jeunes socialistes, Emma Rafovitch. Début mars, elle a subi une vague d'insultes sur Internet, dont certaines à caractère antisémite.
La lune de miel se poursuit au Brésil.
Entre Emmanuel Macron et le président brésilien Lula, les clichés de la séquence hier des deux dirigeants main dans la main dans la forêt amazonienne fait d'ailleurs sourire des Brésiliens sur les réseaux sociaux qui comparent ça à des photos de mariage. Mais au-delà des sourires, il y a de vrais enjeux stratégiques au cœur de cette deuxième journée de la visite d'Emmanuel Macron au Brésil, Brésil où il n'était jamais venu depuis son élection en 2017. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir Kevin.
Les deux dirigeants ont mis à l'eau aujourd'hui un sous-marin franco-brésilien, symbole de la réconciliation entre les deux pays.
Oui, et comme s'il rattrapait le temps perdu, assis sur scène pendant que des militaires défilent et palabrent à la tribune, les deux présidents n'arrêtent pas de discuter. Lula cherche à obtenir l'aide de la France pour construire un sous-marin à propulsion nucléaire. Technologie précieuse, sensible, Emmanuel Macron ne ferme pas les écoutilles.
Je souhaite que nous ouvrions le chapitre de nouveaux sous-marins, que nous regardions en face la propulsion nucléaire, en étant parfaitement respectueux de tous les engagements les plus rigoureux de non-prolifération. La France sera à vos côtés.
Nous partageons, ajoute-t-il, une même vision du monde attachée au climat, à l'état de droit, au multilatéralisme. Lula est tout aussi enthousiaste.
Je veux, président Macron, te dire que tu pourras quitter le Brésil convaincu que le peuple brésilien aime le peuple français. Et je suis sûr que le peuple français aime aussi le peuple brésilien.
À Brasilia, demain, jamais autant de contrats auront été signés entre les deux pays. Après s'être concentrés en vain sur l'Afrique puis sur l'Indo-Pacifique, l'Élysée se tourne vers l'Amérique latine avec d'autres visites en tête. Il était temps, souffle-t-on dans la délégation. Une bouteille de champagne se fracasse alors sur la coque du sous-marin Tonelero. C'est dommage, s'amuse Lula, on aurait pu la boire ensemble.
Maxence Lambrecq, en direct d'Itaguaï au Brésil. Vous étiez avec Romain Louis XV pour les moyens techniques.
Moins de passoires thermiques sur le marché de l'immobilier.
Oui, c'est ce que dit une enquête du site Se Loger aujourd'hui, 3 ans après l'adoption de la loi Climat qui prévoit un calendrier pour l'interdiction de ces passoires thermiques. Les logements classés G+, ne peuvent plus être loués, par exemple, depuis le 1er janvier 2023.
Bonsoir Thomas Lefebvre.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président data de seloger.com. Effectivement, le constat est assez clair. De moins en moins de passoires thermiques sur le marché. C'est moins 11,8% depuis le mois de janvier. Est-ce que ça veut dire, selon vous, est-ce que c'est votre lecture, que l'obligation de conformité énergétique, c'est-à-dire faire des travaux dès lors qu'on est classé F ou G, ça marche et ça se voit sur le marché ?
On voit effectivement des transferts de classe qui commencent à s'opérer entre des biens qui étaient mal classés, F et G, qui ne rentre plus sur le marché. C'est une passoire sur 4 qui ne rentre plus sur le marché aujourd'hui, de la location, et des biens qui sont un peu mieux classés, qui, eux, augmentent légèrement. Donc oui, ça va dans le bon sens, et l'offre locative est de meilleure qualité.
Mais est-ce que ça veut dire, Thomas Lefebvre, qu'on peut dire à coup sûr que les 11% de passoires en moins sur le marché, c'est parce que des travaux ont été faits, ou parce que, au fond, les propriétaires les ont retirés du marché en se disant « bon, je vendrai plus tard, de toute façon, là, pour l'instant, je perdrai trop d'argent ».
Alors, c'est un peu les deux. On voit des propriétaires bailleurs qui font les travaux pour rentrer en conformité. Et on voit aussi des propriétaires bailleurs qui, eux, ne veulent pas faire les travaux, mais vendent leurs biens. Mais qui les achète ? Soit c'est des gens qui vont les remettre sur le marché de location, mais du coup, pour le faire, ils vont être obligés de faire des travaux. Ou c'est des propriétaires occupants qui, eux, feront les travaux pour leur propre confort. Donc, d'une certaine manière, c'est pas une si mauvaise chose.
Donc, ça veut dire, en tout cas, que pour le coup, c'est bien la note énergétique désormais qui détermine le prix, en même temps, évidemment, que le prix du mètre carré, mais qui le détermine vraiment quand on a un appartement F, quand on a un appartement G ou G+, en termes de prix, y compris de prix de mètre carré, ça chute terriblement.
C'est une vraie nouveauté et c'est un impact très fort de cette loi climat résilience qui vise à réguler les passoires énergétiques sur le marché de l'immobilier. Tout le monde s'en fichait un peu du DPE il y a quelques années. Aujourd'hui, quand on vend une passoire, un bien qui est noté F et G, on a une forte décote sur le prix de mise en vente. C'est 16% de moins pour un bien qui va être comparable et qui est mieux noté, hein, qui est noté D par exemple, quand on vend une passoire, c'est une décote de moins 16%, ce qui est quand même conséquent sur le marché de l'immobilier qui n'existait pas il y a quelques années.
Il faut décrypter ce que ça veut dire. En termes de prix du mètre carré, par exemple, ça fait une somme, c'est autour de 400, un peu plus de 460 euros du mètre carré. Puis c'est surtout la différence, en fait. Ça, c'est pour 2024. En 2021, on était beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose quand même dans la tête des acheteurs et des vendeurs.
Il s'est clairement passé quelque chose, hein, quand on parle d'une décote de 460 euros par mètre carré en moyenne en France. Quand on ramène ça au prix d'une maison, hein, on peut légitimement penser que cette décote, demain, elle va pouvoir solvabiliser des projets de rénovation pour les Français. Et ça, c'est très intéressant.
Ça veut dire opportunité aussi pour ceux qui ont de l'argent, j'imagine, Thomas Lefebvre, parce qu'acheter une passoire pas chère en se disant « de toute façon, je fais des travaux », c'est tout bénef pour ceux qui ont un capital d'entrée.
Alors, c'est évidemment, rentrer sur le marché de l'immobilier, c'est pour les personnes qui sont solvables. Ce qui est intéressant, c'est que pour les ménages peut-être un peu plus modestes, les passoires énergétiques, à la fois, offrent des décotes qui sont aujourd'hui intéressantes, hein, quand on parle de pouvoir d'achat, et surtout, couplées aux aides de l'État, avec MaPrimeRénov, ça va permettre de, encore une fois, financer ces travaux de rénovation et ces primes d'État qui vont être plus intéressante pour, encore une fois, les ménages les plus modestes.
Après, ce qui m'a étonné dans votre étude, Thomas Lefebvre, c'est de voir que les loyers des passoires thermiques continuent d'augmenter, alors qu'on est bien d'accord, hein, les GG+, théoriquement, au moment où on se parle, c'est déjà interdit.
Même les F, effectivement,
et même les F,
depuis août 2022, ouais. C'était un des premiers amendements de cette loi de réguler l'augmentation des loyers pour les passoires énergétiques. Et il faut voir, oui, effectivement, que face à un marché locatif qui est hyper tendu, même le prix des loyers des passoires augmente, et ce qui nous laisse penser que pour l'instant, ce décret-là a un impact assez limité sur l'augmentation des loyers.
Mais ça veut dire qu'il faut le dire aux locataires aussi peut-être et plus fermement, Thomas Lefebvre, on n'a pas le droit d'augmenter votre loyer si on est dans une passoire, si on est F, G ou G+, et c'est bien de le savoir.
Tout à fait. Et il y a un vrai enjeu d'information des Français autour de cette loi qui reste quand même, mine de rien, assez méconnu, notamment du côté des locataires.
Thomas Lefebvre, vous êtes le vice-président data de seloger.com en direct avec nous dans le journal. Merci beaucoup.
L'actualité ce soir, c'est aussi Météo France qui place 6 départements de l'Ouest en vigilance orange pour vent. Des rafales jusqu'à 130 km/h attendues sur les côtes. On y revient dans une minute avec la météo d'Élodie Calac. Mais faisons maintenant un bond dans le temps, en 1874, parce qu'il y a donc 150 ans, naissait l'impressionnisme, l'un des mouvements artistiques les plus célèbres au monde. Toute l'année 2024 est marquée par cet anniversaire, un peu partout en France, à Paris évidemment. C'est à Orsay que ça se passe. Bonsoir Isabelle Pasquier.
Bonsoir à tous.
Le musée abrite déjà certains des plus grands chefs-d'œuvre impressionnistes, et il a décidé de recréer l'exposition de 1874, là où tout a commencé.
Enfin, une partie de l'exposition, une exposition légendaire, car elle va bouleverser l'art. Les toiles de Monet, Degas, Manet, Renoir, Cézanne, Berthe Morisot, Sisley, Pissarro sont vraiment un choc artistique devant Impression Soleil Levant de Monet. Un critique à l'époque se moque de ces artistes qui peignent juste leurs petites impressions. Et donc, pour se moquer, il invente le terme impressionnisme. Mais surtout, ces artistes peignent un monde moderne qui change, qui s'industrialise. Sylvie Patry est co-commissaire de l'exposition.
C'est un nouveau regard sur le monde et c'est un nouveau regard sur un monde qui lui-même est nouveau. Les impressionnistes, ce qu'ils mettent au cœur de leur art, c'est vraiment le temps présent. Et donc la technique des impressionnistes, cette technique très esquissée, ces touches de couleurs pures, qui à l'époque choquent parce qu'elle passe pour de la désinvolture, mais cette peinture en fait c'est fait pour faire entrer la vie dans l'art et pour raccorder l'art à la vie.
À Orsay, vous verrez le premier tableau de cette première exposition impressionniste, La danseuse de Renoir, Les coquelicots de Monet et son impression Soleil levant, où il peint la poésie de la pollution au Havre. Également le berceau de Berthe Morisot, une des rares femmes dans le milieu artistique très masculin de l'époque, avec Marie Cassatt, Marie Braquemont et Eva González. Alors cette première exposition impressionniste, il faut le dire, était un four commercial. Seuls 4 tableaux sur 100 ont été vendus, dont Impression Soleil Levant, acheté environ 1000 francs, soit à peu près 4500 euros. Aujourd'hui, ça fait un peu rêver.
Isabelle Pasquier, l'exposition dure jusqu'au 14 juillet. Et demain matin, Sylvie Patrick, on vient d'entendre la co-commissaire de cette exposition, sera l'invitée de Sonia De Villers à 7h50 sur Inter.
Et merci beaucoup, Kevin Dufresne. Je vous reviendrai tout à l'heure. Vous passerez sous les radars pour nous ramener l'actualité internationale qui nous a échappé. On jette un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers, véhicules électriques, hybrides ou thermiques. Devis et rendez-vous en ligne, tout simplement, sur euromaster.fr.
Élodie Calac, un temps très agité, dites-moi.
Oui, une dégradation gagne la façade ouest ce soir avec du vent fort, des pluies parfois orageuses. Ce temps va glisser vers l'est dans la nuit, puis demain matin, des pluies persisteront sur le flanc est, sur la Corse. Attention aux avalanches sur les Alpes du Sud, sur le relief Corse également. On attend de fortes vagues en Méditerranée. Le Var est d'ailleurs placé en vigilance orange vague submersion pour toute la matinée.
Et sur le nord-ouest, ce sera à nouveau très instable.
Des averses éclateront dès le matin avec de l'orage, du grésil et un nouveau coup de vent. Côte d'Armor, Finistère, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime et Deux-Sèvres sont placés en vigilance orange. On attend jusqu'à 100 à 110 km à l'heure sur ces départements, 120 à 130 même sur le littoral. Et puis ce ciel de giboulée, il gagnera également les régions du nord-est pour l'après-midi. Sur le sud-ouest, ce sera plus calme avec de belles éclaircies le matin. Un beau soleil l'après-midi de la Méditerranée vers l'Auvergne et la vallée du Rhône. Et tout ça avec des températures de saison entre 11 et 20 degrés.
Merci beaucoup Élodie Calac de Météo France. Vous reviendrez tout à l'heure après le journal de 19h.